c'était donc bon, ça,
très
Daniel.
Belle chanson de Neil Sedaka qui avait été publiée en 1975, celle-là. Je vous en reparle un petit peu plus tard parce que c'est assez particulier. C'était comme un retour pour lui quand il a publié ça.
Neil Sedaka qui est mort récemment.
Le 27 février 2026. Donc, il venait d'avoir... il aurait eu 87 ans quelques semaines après. Il avait 86 ans parce qu'il était né le 13 mars 1939.
Et je voulais dire, à ne pas confondre avec Neil Diamond.
Absolument. D'ailleurs...
qui, lui, a 85 ans. Oui. Il est toujours vivant.
Oui, il est toujours vivant, mais qui souffre de la maladie de Parkinson.
Ouais.
Donc, peut-être qu'elle m'a vous en parlé dans un jour, là, mais oui, Neil Diamond, c'est tout un auteur-compositeur aussi. Donc, Neil Sedaka, que je connaissais pas tant que ça, finalement, quand je me suis mis à fouiller, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses. Vous allez voir dans les extraits audio tantôt, il y a des trucs qu'on reconnaît. On savait pas que c'était
lui. On l'associe pas nécessairement à Neil Sedaka.
Absolument. Et c'était...
c'est un Américain?
Oui, un Américain né à Brooklyn, à New York. C'était un auteur, compositeur, interprète et un excellent pianiste, apparemment. Et ça, au début de sa carrière, ça lui est arrivé d'être invité à des émissions de télé. Et puis, à un moment donné, il se mettait au piano, puis il jouait du Chopin ou quelque chose comme ça. Puis là, tout le monde était complètement éberlué. Il ne s'attendait pas du tout à ça, d'un petit chanteur pop. Donc, très grand talent.
Il y a des petits chanteurs pop qui sont des grands pianistes. On pense à Billy Joel, Elton John, Stevie Wonder.
Oui, parce que souvent, les carrières de chanteuses ou de chanteurs pop, c'est basé sur le fait qu'il faut vendre des disques. Mm-hmm. Donc, le producteur les dirige vers un certain style de musique pour que ça vende. Mais souvent, une grande partie de leur talent qu'on ne connaît pas, finalement. Donc, lui, son talent est arrivé, il est arrivé, j'imagine, à la naissance, comme la plupart du monde. Je ne pense pas qu'on achète ça, mais il l'a développé très tôt. À partir de 9 ans, il prenait des cours de piano classique. Et très jeune, il a reçu une bourse pour étudier au prestigieux Juilliard School of Music à New York. Mmh. Et apparemment qu'il était très prometteur, ça avançait beaucoup.
Et là, en musique classique.
Et là, ce qui est arrivé, et ça, c'est vraiment le genre de hasard qui ne doit pas arriver des tonnes de fois dans une vie. Dans le même bloc où il demeurait, à New York, il y avait un jeune un peu plus vieux que lui, je pense que peut-être 3 ans de différence, qui lui écrivait de la poésie. Puis bon, je pense que les deux mères se connaissaient, puis à un moment donné, mon fils, il fait ci, le mien, blablabla. Donc, ils ont fait rencontrer les deux fils, qui sont devenus rapidement des très bons amis. Et l'autre, c'était M. Howard Greenfield, qui écrivait de la poésie, qui était un petit peu plus vieux. Je pense que quand ils se sont rencontrés, Howard avait 16 ans et Neil avait 13 ans. Donc, et là, Howard a commencé à essayer de convaincre Neil d'écrire des chansons. Parce que lui, il écrivait de la poésie.
De composer.
Puis écrire ensemble des chansons. Et Neil était très réticent au début, mais c'était devenu des bons amis. Ils se sont essayés, ils ont fait des choses. Et à un moment donné, il a commencé à jouer
dans
le groupe.
C'est lui qui l'a dénaturé, Howard.
Oui, le petit maudit Howard. Et voilà le résultat. On regarde ce que ça donne. Et finalement, il a commencé à jouer dans des groupes de rock'n'roll. Ça commençait, le rock'n'roll, un peu. Et de doo-wop. Vous avez déjà entendu cette expression-là, doo-wop? Moi aussi, je me demandais souvent c'était quoi. Je sais c'est quoi, mais j'oublie. Apparemment, je suis allé voir pour être bien sûr de ne pas donner de fausses. Ça serait un sous-genre du rhythm and blues influencé par le gospel et les barbershop quartets. Méchant mélange. Quand j'en entends, je ne peux pas dire que je reconnais que c'est du doo-wop. Pour moi, c'est de la musique des années 50, tout simplement. Donc, et après ça, il a décidé de s'essayer en solo. Donc, avec les compositions de Howard Greenfield et lui.
C'était-tu comme son Bernie Taupin pour
Elton John? Oui, exactement. Le genre de Lennon-McCartney et de vraiment une équipe là, qui faisait des choses intéressantes. Sauf que c'est pas facile au début. Fait que là, il faut frapper à plusieurs portes. On présente des chansons, puis ça les intéresse pas. Puis il y a toujours quelque chose. Ou il y a certains producteurs qui écoutaient ça, puis ils disaient, c'est intéressant, mais on n'aime pas la voix de Neil. Il y a une voix trop haute, puis c'était pas correct. Il fallait faire chanter ça par d'autres. Donc, finalement, de fil en aiguille, ils ont réussi à se faufiler pas mal.
De fil en aiguille,
exactement. C'était prévu. Et ils ont réussi à impressionner un certain Don Kirshner. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose.
Non.
Lui, c'est un producteur. Je ne sais pas comment appeler son nom, là. Mettons qu'il gérait pas mal de patentes. Il travaillait au Brill Building à New York. Et ça, le Brill Building, j'ai lu beaucoup là-dessus parce que ça me fascinait. C'était un endroit où il y avait à peu près 200 entreprises de musique dans le même bloc. Tu avais des locaux où il y avait des auteurs-compositeurs qui travaillaient. Tu avais des musiciens à côté qui les supportaient. Tu avais un studio d'enregistrement pour enregistrer des démos. Tu avais des personnes qui recherchaient des talents, donc en allant frapper à leur porte, disaient « Hey, on vient de composer ça, écoutez
une
ça, blablabla. »
Tu
avais ceux qui avaient les contacts avec des postes de radio. Tu pouvais entrer un matin et écrire une chanson avec quelqu'un, la faire enregistrer par des musiciens, faire presser le disque. Prendre l'ascenseur, aller là. En sortant le soir, les disques étaient prêts à les porter au poste de radio parce que le contact était déjà fait. Donc, c'était le Brill Building, B-R-I-L-L. Donc, c'était vraiment l'usine à musique, là, à partir de la matière première jusqu'au produit fini. C'était assez impressionnant. Et apparemment que Neil Diamond et Howard Greenfield ont été parmi les premiers...
Neil Diamond,
ça n'aurait pas fallu qu'on parle de ça tantôt, ça va souvent me revenir. Neil Sedaka, ont commencé à travailler là. Ils ont été à peu près les premiers, pas les premiers, mais dans les premiers à travailler comme auteur-compositeur pour fournir du matériel pour d'autres chanteurs, pour d'autres musiciens, tout ça. Et d'ailleurs, dans le building, là, j'ai noté des noms, c'était quand même assez intéressant. Il y avait Burt Bacharach qui travaillait là, Sonny Bono, que vous souvenez, Sonny and Cher. Boys and Heart, eux autres, ils écrivaient beaucoup de chansons, surtout pour l'émission de Monkees à l'époque. Ça prenait des chansons toutes les semaines.
J'avais déjà fait une chronique là-dessus.
Oui, et il y avait aussi Neil Diamond, j'ai vu son nom du coin de l'œil. Lui aussi, il travaillait là. Lui aussi, il avait écrit des chansons pour les Monkees. Fait que toute cette entreprise-là prenait les chansons, on me disait ça va être bon pour tel artiste, ça va être bon pour tel autre. Donc c'était, comme je dis, c'était vraiment un tout. C'est un Brill Building, là, c'était une usine.
C'est rare qu'on voit ça.
Oui. Ça ne doit plus exister aujourd'hui. Là, le marché a changé énormément. Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et à un moment donné, il a commencé à écrire des chansons qu'il voulait chanter par lui-même et c'était pas toujours facile. Comme je vous disais, là, les producteurs étaient un peu réticents.
Par rapport à
sa voix. Il a écrit des chansons pour la chanteuse Connie Francis, Stupid Cupid et puis Where the Boys Are. Qui ont été
chanteuse
des...
country?
Je sais pas
trop,
country
non?
pop un okay. peu, ouais. Parce que Where the Boys Are, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Cette chanson-là avait joué beaucoup. Stupid Cupid aussi. Ouais.
Sûrement quand on l'entend, on dit « Ah oui, OK, oui, je la connais. »
Puis finalement, avec ces succès-là, Neil Sedaka a réussi à convaincre qu'il pouvait peut-être en chanter une ou deux lui aussi. Là, c'est après lui, après tout,
chanter.
C'est lui qui les écoutait. Donc, ils ont lancé « Oh Carol ».
Qui a
été un super succès. Donc, il est devenu une vedette du jour au lendemain. Et après ça, il y a quand même plusieurs succès.
Là, ils l'ont laissé chanter.
Là, ils ont dit, OK, là, on va essayer de pousser un petit peu de ce côté-là. Et juste à partir de 1900, entre 1959 et 1963, il a vendu à peu près 40 millions de disques. Juste dans cette petite période-là. Donc, on peut dire que là, ça venait de décoller. Là.
Je comprends.
On devrait justement écouter des extraits de cette période-là pour comprendre un petit peu, parce qu'il y a des choses que vous allez reconnaître. Moi, j'en ai reconnu quelques-unes. Et vous allez voir que c'était pas pour rien qu'à l'époque, ça sonnait.
La musique de vacances, hein?
Oui, oui.
Voyage dans le temps. On a reconnu le temps des vacances.
La toune de Pierre Lalonde.
Ben oui, c'est
le temps des vacances.
C'est pas la toune de Pierre
J'ai
Lalonde, c'est
ça.
La toune de
ben
Neil Sedaka.
J'ai appris cette semaine que c'était Neil Sedaka qui avait écrit ça.
C'était la mode à l'époque. Hein?
Oui,
on
c'était la mode. On traduisait, on prenait. D'ailleurs, c'est un détail que j'avais oublié de mentionner au début. Quand il poussait beaucoup pour signer avec une compagnie de disques, souvent il se faisait refuser. Sa chanson, c'était pas assez solide ou n'importe quoi. À un moment donné, il a acheté 3 ou 4 disques, les numéros 1, pas nécessairement du mois, là, mais de d'autres époques aussi. Il les a tous analysés. La structure, les tonalités, les changements d'accords, la mélodie, c'est quoi un hit numéro 1? Oh. Il a commencé à travailler à partir...
Il
s'est fait une recette, il a travaillé à partir de ça. Et ça finit par paraître un peu, mais
ouais.
C'était brillant quand même. Le gars veut gagner sa vie en faisant de la musique, il faut qu'il trouve les bons outils.
Mais son premier grand succès, Daniel, c'est O Carol. Et Carol, c'était-tu le
Carol
nom
Carol King.
Ah, la chanteuse Carol King.
J'étais ami avec Carol King.
Ça n'a pas été sa blonde.
Ça a été sa blonde, mais pas longtemps.
Ouais.
Puis je pense que ça lui a laissé une marque assez indélébile.
Ben oui.
Donc, la O Carol, c'est notre
Carol King,
absolument,
bon.
Qui travaillait, elle aussi, au Brill Building avec son mari Jerry Goffin, travaillant pas en solo, mais en duo.
Mais il n'a pas fait une chanson au Jerry.
Non, ça, je pense qu'elle aurait été plus rough. Donc, il a écrit même à cette époque-là.
Toutes ces chansons-là datent de quelle année?
Ça, c'est tout. C'est très facile à retrouver. Là. C'est entre 59 et 64. Et devinez pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé en 1964? L'invasion britannique. Les Beatles sont débarqués
en 64, je pensais que c'était en 62.
En 64. Okay. Ils ont fait leur première apparition au Ed Sullivan Show en février 64. Ça a été le tsunami. Tout le monde voulait les Beatles et tout le monde voulait jouer comme les Beatles. Et c'est cette musique-là qu'on voulait entendre. Et là, tout de suite
après... Et rien d'autre.
Là, ça a été l'invasion britannique. Les Rolling Stones sont arrivés, les Kings et toutes les autres. Donc... La petite musique, les petites chansonnettes de Neil Sedaka avec sa petite voix au perché. Là, les producteurs disaient non, ça marche plus, désolé, man.
T'as fait ton temps.
On fait autre chose. Donc, il a quand même continué. Il a écrit des chansons pour d'autres à cette époque-là. Je parlais tantôt, Brill Building fournissait des chansons à plusieurs projets, dont l'émission de Monkees. Il a écrit une couple de chansons pour les Monkees. Il en a écrit pour The Fifth Dimension. En tout cas, il a quand même continué à travailler. Et même s'il n'y avait pas beaucoup de chansons de lui qui ont continué à jouer à la radio, il a continué à faire des spectacles. Parce qu'il avait quand même réussi à se créer vraiment un gros fan club. Et il a continué à faire de la tournée, il a continué à travailler. Et il a même déménagé en Angleterre à un moment donné. Puis il a travaillé beaucoup là-bas parce qu'il y avait, je ne sais pas pourquoi, mais là-bas...
Il était emporté par la vague.
Oui, là-bas, il marchait beaucoup. Donc ici, on avait l'invasion britannique, puis des Britanniques qui écoutaient du Neil Sedaka. Fait que ça l'a aidé beaucoup à continuer. Et ce qui est arrivé au début des années 70, il a rencontré un monsieur, un Britannique, qui commençait à avoir pas mal de succès, même en Amérique, un monsieur Elton John.
Je connais pas.
Non?
Le nom me dit quelque chose.
Un jeune très prometteur, je vous dirais.
Il semble qu'il s'appelait
Reginald. Ouais. Je pense qu'il s'appelle Sir, au fond. Mais Elton John aimait beaucoup Neil Sedaka, probablement pour son sens de la mélodie, puis tout ça, puis pour le succès qu'il avait eu aussi, bien entendu. Donc, il lui a proposé d'enregistrer un disque en Angleterre sous sa nouvelle compagnie de disques, qui était Rocket Records. Donc, il a enregistré un disque qui contenait la chanson qu'on a entendue au début, qui était...
O Carol? Non.
Quand on a ouvert la chronique, Laughter in the Rain.
Oui.
Qu'on voit que ça sonnait quand même plus années 70, ça sonnait plus années 50. Là.
Mais oui, c'est à 75, vous avez dit que c'était...
Oui, 75. Ouais. Donc ça a été un très gros succès. Et ça lui a donné un regain de vie, on peut dire. Il a recommencé à écrire des chansons. Il a commencé même...
C'est une collaboration éphémère avec Elton John?
Oui, d'ailleurs, Elton John, il a fait des back vocals sur une des chansons de cet album-là. Je ne me souviens pas le titre, je vais l'avoir noté. Bad Blood, il y a une chanson qui s'appelle Bad Blood, qui est devenue numéro 1, Laughter in the Rain aussi. Puis Elton John a fait des vocales. Et ensuite, il a composé...
Elton John, c'est mon choriste.
Ah oui, ça paraît bien quand même. Ça aide un peu à vendre un disque. Et il a fait une chanson aussi qui a été connue, mais plus par un autre groupe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 70, un groupe, un duo, dans le fond, qui s'appelait Captain and Tennille.
Ah oui, oui.
Et c'était quoi la chanson? We'll Keep Us Together. Et c'est une chanson de Neil Sedaka.
Ah, c'était super bon,
c'était
ça!
C'était super bon. Il en a fait une version lui-même, mais c'est celle de Captain Antonil qui est devenu vraiment un gros, gros numéro.
Tu vois les grands yeux bruns de Captain.
Il y avait un, il y avait un look un peu à l'époque.
Avec la casquette.
La casquette.
Mais du capitaine.
Ouais. C'était, c'était gimmick.
Mais c'est encore bon, cette chanson-là.
Ça, quand ça joue encore, oui, effectivement. C'est le genre de chanson qui fait du bien à entendre.
Faudra la mettre demain. Ouais, Mathieu, il est crampé. Il voit l'image.
Ils ont un look.
C'est Mario Bros.
C'est comme...
On a les références.
Je pense
qu'en
gêne de poitrine avait compris eux autres. Ils ont dit, on va se, masquer complètement.
Il y a quelque chose d'Omar Sharif.
Donc, c'est tout ça pour dire que son sens de la mélodie, il l'avait toujours. Hein. Il avait réussi quand même à faire des choses intéressantes, même pour les autres. Et il y a un petit peu plus tard, quelques années, on est rendu dans les années 90. Et on se souvient qu'il avait une formation de pianiste classique. Donc, il a toujours voulu rester un petit peu proche de la musique classique, même si c'est ce qu'il faisait, c'était toujours de la musique pop. Puis probablement qu'il se faisait critiquer un peu aussi pour ça, qu'il faisait juste de la petite chansonnette pop facile, blablabla. Donc, il a réussi. En 1995, il a lancé un album qui s'appelle, ça, j'ai de la misère à le dire, Classically Sedaka. Puis on va en écouter des extraits. Vous allez voir, c'est très différent de ce qu'il fait habituellement.
We'll sail on the sunrise. We'll float among the stars together. Honey of my life, you bring me love, you bring me hope, and high above, the heavens smile their light on me, and I am blessed eternally. That's in my heart. You'll never know how much you mean to me. My everything. Looking back upon the day we met, my love, I'll cherish that magic day. But it's hopeless. You are underneath his spell now. Steel blue eyes, they melt your heart away. A devil or an angel, I'm not sure I really care. To me.
C'est drôle. Je dis à Daniel, moi, j'écouterais ça en faisant mon ménage. Daniel dit, moi, c'est en étant à l'épicerie, en étant en train de choisir en telle et telle boîte de conserve de tomates. Ouais. Et puis Mathieu, il dit, moi, j'écouterais ça dans le trafic. Fait que finalement, on l'écouterait partout.
C'est une musique passe-partout, dans le fond, c'est génial.
Mais c'est quand même particulier, hein, des airs classiques très, très connus des paroles de Neil Sedaka.
Ce qu'on a entendu, la première chanson, d'ailleurs, c'est ça, lui, il a mis des paroles sur des pièces classiques. La première chanson, il l'a appelée « Never Ending Serenade ». C'est une pièce de Chopin, nocturne en mi bémol majeur. Ensuite, « Honey of My Life », c'est une pièce de Beethoven, que vous avez reconnue, bien entendu, « Für Elise ». Ensuite, une autre pièce de Frédéric Chopin. Ensuite, une de Beethoven, la sonate pathétique. Et la dernière, c'était une pièce de Sergei Rachmaninov. Donc,
C'était pas pathétique,
c'était bien.
Mais c'est une belle découverte.
Donc, M. Neil Sedaka, qui a quand même eu une très belle carrière, il a arrêté d'écrire des chansons en 2002 seulement, et il avait été hospitalisé à Los Angeles le 27 février 2026, et il est décédé le même jour. Il y a eu un malaise, il est rentré à l'hôpital.
On va se laisser avec « Breaking Up is Hard to Do ».
La version qu'il a refaite, parce que cette chanson-là est devenue numéro un deux fois. L'original et quand il a fait une nouvelle version qui est un peu plus jazzée.
On va écouter quoi? La nouvelle version?
La nouvelle version.
Merci, Daniel Lachance. On se retrouve à la fin du mois de mai.
Tell me that you're leaving. I can't believe it's true. Girl, there's just no living without you.